Carl Fugère, bonjour.
Bonjour.
Alors, le Conseil du patronat a exprimé la semaine dernière une impatience certaine. Les patrons du Québec veulent le déconfinement, et plus tôt que tard. Tout à l'heure, en mi-journée, le Premier ministre du Québec va annoncer son plan de relance économique. Les industriels de votre réseau partagent-ils cette impatience?
Bien, c'est sûr que tout le monde est impatient de retourner au boulot, surtout les entreprises qui sont dans des secteurs non essentiels en ce moment, parce que c'est là que ça a été le plus... En fait, ça a été là qu'il y a eu l'arrêt. Dans les secteurs dits essentiels, bien, c'est sûr qu'il y a eu des pressions sur les carnets de commandes. Il y a beaucoup de nos membres qui continuent à travailler très fort, à distance, dans plusieurs occasions, ou quand il faut qu'ils se déplacent à l'intérieur de l'usine. Évidemment, il y a beaucoup de mesures sanitaires qui sont mises en place. Mais effectivement, tout le monde a hâte que ça recommence, mais en même temps, pas à tout prix non plus. Je crois qu'on est tous dans le même bateau dans ce sens-là. J'écoutais plusieurs de vos intervenants.
Oui, prudence, hein, c'est ça. Prudence.
C'est ça, il faut être prudent. Puis c'est là qu'on voit aussi, on a plusieurs de nos membres qui ont usé d'imagination, sont en train de sortir des produits qui sont en fonction de délimiter de l'espace, marquer l'espace, exemple, avec un jet de lumière pour montrer qu'on est dans l'espace de quelqu'un, on est en dedans de l'espace un peu réglementaire, si on veut, là, qu'il faut respecter. Donc, on voit que ça apporte des contretemps, ça nous embête toute la situation, mais en même temps, des fois, naît de ces situations-là.
L'innovation.
Des produits, l'innovation, voilà. Des nouvelles façons de faire. Puis nous, c'est plus de cette façon-là qu'on aime l'aborder. En fait, on essaie de prendre le côté positif du COVID en tant que tel.
Alors justement, Carl, les industriels se sont mobilisés durant cette crise. On l'a vu au Québec et d'ailleurs partout dans le monde, mais au Québec, vraiment, on a vu l'esprit d'initiative se dévoiler. Ils ont fait preuve d'innovation, d'agilité, ces industriels. Vous prenez depuis des années, vous, l'automatisation au Québec. Est-ce que c'est cette automatisation qui a permis, entre autres choses, la capacité de mobilisation extraordinaire de ces industriels québécois durant la crise?
Bien, tout à fait. C'est sûr que quand on a des outils pour travailler puis pour accélérer nos rythmes de cadence puis pouvoir mieux performer, ça nous aide toujours. Souvent, je fais la comparaison entre moi et toi, Philippe, qui avons comme objectif d'aller à Québec. Toi, tu t'en vas avec ta charrette, avec des chevaux puis avec ta map en papier.
Ah, ça m'arrive
puis
souvent.
Moi, c'est ça. Puis moi, j'ai une Tesla avec l'autopilote puis la map intégrée dans l'auto. C'est sûr et certain que je vais arriver avant toi. Donc, c'est un peu un comparatif à ce niveau-là où ça dépend tout le temps du degré de maturité technologique que les entreprises avaient pour pouvoir faire le pivot qu'on appelle, parce qu'il faut toujours pivoter dans ces moments-là. C'est un peu le réflexe d'une start-up à la limite, où ce que une start-up va essayer de pivoter, va essayer de voir des enjeux comme des occasions de pouvoir développer soit un nouveau modèle d'affaires ou de modifier un produit en tant que tel. Si vous avez, je pense, reçu dans les dernières semaines Yves Dandurand d'Adfas qui va justement passer, je pense, après moi tantôt. Ben, c'est ça, tu sais, Yves, ils se sont retroussés les manches, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis eux, c'est sûr qu'Adfas, c'est une entreprise qui est 4.0, donc ils ont beaucoup de ressources à l'interne, mais des fois, c'est pas toujours le cas des plus petites entreprises, des moyennes entreprises qui ont toutes ces ressources-là à l'interne.
Mais justement, alors, Carl, est-ce que l'automatisation dans les usines, c'est l'avenir au Québec? Est-ce que les robots vont-ils tous nous remplacer? Est-ce que vous appelez ça de vos voeux?
Ben en fait, je crois que le c'est un faux débat de penser que les robots vont remplacer l'humain. Les robots remplaceront jamais l'humain. Je crois qu'on vient de tourner notre moment pivot justement avec le COVID. On vient d'en rentrer par la grande porte dans l'économie du savoir. Donc, c'est de développer plus notre intelligence, des métiers à forte valeur ajoutée qui mettent en valeur justement le savoir-faire, l'intelligence humaine. Donc, je pense qu'il va y avoir un mouvement de métiers. Probablement des métiers qui existent même pas aujourd'hui qu'on va apprendre des nouvelles fonctions dans le futur, mais c'est ça la beauté de la chose. Je pense qu'on est dans un moment transitoire en ce moment.
Et c'est marrant, vous parlez d'économie du savoir, vous ne parlez pas d'économie numérique.
Ben en fait, c'est l'économie du savoir, c'est l'économie numérique. Hein. C'est pas mal lié ensemble. Ouais. Ça vient pas juste de démarrer l'économie du savoir en réalité. Ouais. Juste que là, ça prend tout un autre perspective parce qu'on se rend compte que le numérique va justement nous aider à pouvoir pallier à certains obstacles qu'on a en ce moment. T'sais, soit au niveau de la commercialisation, au niveau de la fabrication. T'sais, l'automatisation, là, ça couvre tous les secteurs en réalité. T'sais, on voit de plus en plus. Je voyais justement un de nos membres hier qui a lancé un prototype, une vidéo d'un prototype sur LinkedIn où ce qu'on montre un système de robots collaboratifs qui pourrait être associé aux commandes à l'auto, mettons exemple d'un Tim Hortons. Donc, on voit voit qu'il y a de plus en plus de technologies qui vont prendre de plus en plus de place, en fait, dans notre quotidien. Non seulement, ça sera plus seulement limité à la fabrication dans les usines.
Mais c'est ça. Et ce que vous voulez dire aussi par là, par cette économie du savoir, c'est que ce n'est pas uniquement que de la technologie, ce n'est pas que de l'automatisation, mais on l'a bien compris, c'est la complémentarité avec l'humain qui crée justement cette économie particulière en devenir.
Ouais, tout à fait. Puis c'est pour ça, Philippe, en fait, qu'on a lancé dès le 27 mars dernier notre mouvement mobilisation des leaders numériques en automatisation et transformation industrielle. Parce que tout commence par l'humain. Si on est capable d'avoir du leadership dans des moments de crise comme ça, ben on est certainement capable de trouver des solutions. Puis on est certainement capable de mobiliser des leaders pour soulever certaines questions sur certains enjeux. Puis nous, c'est ça qu'on a décidé de faire. On a décidé de lancer un projet en fait de co-création avec notre écosystème pour mettre en place justement des outils collaboratif, des façons de travailler autrement, où est-ce qu'on peut justement profiter de tout le savoir-faire, l'intelligence humaine, puis d'être capable de mobiliser autour de des enjeux très, très précis, puis de se donner des défis, de les réaliser. Tu sais, c'est bien beau parler souvent, mais moi, ce qui m'intéresse le plus,
c'est d'être sur le terrain.
Penser à l'action.
Et d'ailleurs, le terrain, le Québec est quand même bien avancé dans ce domaine-là. On rappelle des chiffres, hein, 73% des entreprises manufacturières au Québec ont recours à une forme d'automatisation et 60%, c'est 60% des dirigeants disent avoir l'intention d'intensifier l'usage du numérique. C'est quand même très, très révélateur et j'imagine pour vous assez confortant, non?
Oui, tout à fait, parce que c'est des longues années que nous, on promouvoit l'automatisation au Québec, on travaille avec les instances, avec les différents organismes, on travaille tous ensemble pour la même cause en bout de ligne, c'est de rendre nos entreprises plus numériques, plus efficientes, d'être capables de produire le plus rapidement possible, parce qu'en bout de ligne, les entreprises manufacturières du Québec ne sont pas nécessairement en compétition avec ceux du Québec, on est en compétition avec les autres pays qui sont beaucoup plus avancés que nous, mais heureusement, quand on décide de se rouler les manches, les Québécois, on voit qu'on est très, très solidaires, on est capable de se rallier autour de bonnes causes, qui des gros enjeux qu'on a actuellement. Puis nous, on est très, très content de ça. Puis en même temps, bien, ça permet de justement franchir le pas là, des premiers projets d'automatisation. T'sais, pour ceux qui sont moins automatisés, bien, des fois, souvent, on voit ça plus complexe que ça l'est vraiment. C'est de commencer avec les besoins immédiats que l'entreprise a, les challenges qu'elle a besoin de relever à court terme, puis de regarder c'est quoi les solutions qui existent pour pouvoir mettre des projets en place.
T'sais. Venons-en à cet enjeu marquant de la crise que nous vivons, les fameuses chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur. Y a-t-il présentement des secteurs au Québec où ces chaînes d'approvisionnement sont à risque?
Mais effectivement, on regarde pas, tu sais, il y a toujours un risque partout, tu sais, on veut pas être les prophètes de malheur pour dire il y a un risque absolu là-dedans. L'idée là-dedans, c'est de dire ben les chaînes alimentaires, tout, puis les chaînes reliées à la santé, ben c'est sûr qu'en ce moment on voit que c'est ça qui est essentiel, qui est prioritaire. Fait que c'est sûr qu'il faut tous concentrer selon nous nos efforts. Puis c'est pour ça que nos membres, nous, on a déjà un bon réseau, puis les gens collaboraient déjà beaucoup, puis on le voit là en temps de crise comme ça, autant nos membres qui desservent des secteurs essentiels, ils tombent à 40% de demandes plus de services de production pour augmenter les cadences de ces entreprises-là, mais sont très sollicités. Fait qu'on voit dans le réseau que les gens font appel ensemble, ils se prêtent des équipes, ils se concentrent finalement où ce que le besoin est. Fait que c'est un peu ça, dans le fond. Fait que c'est sûr que les autres entreprises dans les domaines non essentiels, ben on a hâte de voir comment ça va repartir. Puis aussi au niveau de la consommation, des biens de consommation, tout ça, c'est tout ça là, qu'on a tous un gros point d'interrogation pour le moment. On attend tous de voir. Puis l'important, par contre, c'est qu'on se prépare à pouvoir réagir aux besoins.
Alors c'est ça. Vous n'êtes pas dans l'attentisme. Et vous l'avez dit, vous êtes dans l'action. Un petit mot sur le coronavirus Gears Hub, l'une de vos initiatives au REAI. De quoi s'agit-il? On parle justement de chaînes de fabrication. Je crois que vous intervenez sur cette chaîne-là.
Oui, tout à fait. Nous, en fait, c'est ça, c'est qu'on veut vraiment, on est en train, en fait, de se mobiliser à monter, finalement, une plateforme pour offrir, en fait, aux entreprises qui veulent se transformer, qui veulent pivoter ou qui veulent faire des projets de transformation, de trouver très, très facilement des partenaires, en fait, des fournisseurs qui puissent collaborer ensemble à faire leur projet de transformation. Parce que quand on parle d'une transformation, on parle pas oui, on peut commencer par un projet de 3 mois, mais on parle pas d'un projet qui va durer seulement 3 mois. Tu sais, si on compare un peu quand on a acheté nos premiers téléphones intelligents, ben on a acheté probablement toutes 8-10 téléphones depuis ce temps-là, tu sais, puis ça continue toujours, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, la transformation, ça ne s'arrête jamais parce qu'à cause de la technologie, continue toujours d'évoluer. Puis il y a toujours des nouvelles façons de faire. Donc, c'est de rentrer dans ce mouvement de transformation-là pour les entreprises manufacturières. Puis nous, ben notre travail, c'est de créer justement ces cellules de collaboration-là pour fournir tout le SWAT team, le All-Star team autour de ces entreprises-là qui veulent se transformer pour leur offrir le meilleur savoir-faire ou la meilleure technologie qu'ils ont besoin au moment précis où ils sont rendus dans leur processus de transformation.